Catherine Dolto, vous êtes médecin, aptothérapeute, auteure, comédienne, directrice de collection de 89 titres de livres pour enfants, la collection Mine de Rien chez Gallimard, et vous avez accompagné un très grand nombre d'enfants avec leurs parents par l'aptonomie en périnatalité, en vous appuyant sur leurs ressources et sur leur élan vital. On a beaucoup parlé de triade aujourd'hui, et vous-même, vous insistez souvent sur le fait que vous êtes non seulement la fille de Françoise, mais aussi celle de Boris. Oui. Pas Boris Cyrulnik, mais Boris Dolto. Donc votre mère vous disait toujours que la figure de l'humanité, c'est le triangle, que tout est dans la triade. La mère confirme le père confirme la mère, et tous deux confirment l'enfant qui les confirme à son tour.
Ça, c'est l'aptonomie, c'est pas Françoise Dolto.
Non, ça, c'est vous qui me l'avez dit après. Donc, dans votre pratique de l'aptonomie, vous avez pu observer qu'à partir du quatrième mois, le fœtus, enfin, le bébé à naître, va se tourner plutôt vers la voix de son père. C'est ça? Ou est-ce que je me trompe?
C'est un peu trop résumé.
C'est un peu trop résumé. Alors, je vous laisse en parler.
D'accord. Bon, ben, merci de me donner la parole et de me donner la parole après avoir entendu toutes ces choses très intéressantes de ce matin. Et surtout, comme ça, de pouvoir montrer comment l'aptonomie apporte des réponses à beaucoup de questions qui ont été évoquées ce matin. Même si dans le petit film, on n'entendait pas très bien, j'ai eu l'impression qu'il était rendu compte d'une intervention aptonomique un peu calamiteuse. Oui, ben, mal faite surtout. Voilà. Donc dans toutes les professions, il y en a qui travaillent mal. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors ce matin, on a beaucoup, et encore maintenant, parlé de niche et parlé de ça. Et j'aimerais commencer en nous rappelant que nous sommes des mammifères, bien sûr, mais des mammifères très particuliers. Et que, pourquoi particuliers? Parce qu'on a ce mélange entre ce gros cortex qui est tout le temps en quête de sens, et on l'a entendu avec la plasticité neuronale et tout ce qui se met en acte très tôt, et en même temps, cette énorme dépendance, puisque pendant des mois, nous sommes sous la dépendance de grandes personnes qui ne comprennent pas forcément ce dont on a besoin. Et donc, ça crée une insécurité affective qui sous-tend beaucoup des difficultés humaines. Et dans la vie, je suis étonnée moi-même quand je vois toutes les connaissances qui se sont faites dans les 60 dernières années sur les bébés, les nouveau-nés, la vie fœtale, qu'on ne trouve pas évident d'aller à la rencontre de l'enfant in utero, puisqu'il est déjà en quête de sens et en quête de sécurité affective. Alors, je dois dire aussi qu'il ne faut pas assimiler l'aptonomie au refus du droit à l'avortement. Parce que dès qu'on parle de vie fœtale, je dis « Ah là là, mais s'ils disent ça !» Non, c'est toujours un drame pour une femme d'avorter, mais il n'y a qu'elle qui peut en décider, et ce n'est certainement pas un détournement de l'aptonomie que nous saurions soutenir. Donc, dans cette difficulté de cette énorme dépendance, cette néothénie et ce gros cerveau, eh bien, on comprend que nous sommes une espèce qui aurait besoin d'énormément d'éducation, tout le temps, de la conception jusqu'à la mort. Et en fait, nous ne faisons pas du tout aussi bien que les autres mammifères, puisque nous sommes une espèce un peu prétentieuse, et on croit qu'il suffit d'être né d'un homme et d'une femme pour se développer comme un humain. Or non, à ce moment-là, c'est le mammifère qui va se développer, et il ne va pas permettre le développement du discernement et de la conscience qui permettront justement de ne pas être embarqué par cette animalité qui est en nous et qui très souvent nous embarrasse. Je trouve que la carence éducative de toute la société, par toute la société, est une carence majeure. Et si on en prenait beaucoup plus compte, c'est-à-dire que tout petit, on se souciait d'humaniser le petit humain, c'est-à-dire à chaque carrefour, l'inviter à choisir ses valeurs d'humanité plutôt que les autres, eh bien, je pense qu'on n'en serait pas là. Ce matin, il a été évoqué par Boris la façon dont le traitement qu'on inflige aux tout-petits influence leur cerveau et influence potentiellement le développement du pire ou du meilleur. Maintenant, tout le monde sait ça, hein, c'est scientifiquement prouvé. Ben, il se trouve qu'avec l'aptonomie, on a une clinique de cette prévention et une clinique du soin. Alors, beaucoup de ce que je sais à propos des souffrances des humains m'a été appris, bien sûr, avec les bébés et les parents, mais beaucoup aussi avec les adultes en thérapie aptonomique, qui sont souvent des anciens très grands prématurés, mais d'une prématurité d'il y a longtemps, pas des prématurés de maintenant, qui sont traités tout autrement. Et on en reçoit beaucoup en aptopsychothérapie, parce que pour ces gens-là, la psychanalyse, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont des souffrances tellement anciennes, tellement archaïques, tellement avant le langage, et ils ont tellement besoin d'un cadre, d'un dispositif cadrant et cadré, mais néanmoins très affectif, pour pouvoir exprimer leurs souffrances et pour pouvoir dire parfois sans parole les traces qui restent en eux. Et c'est très, très bouleversant de s'occuper d'anciens prématurés. Et une des choses qu'ils m'ont apprises, je ne sais pas si vous savez ça, ceux qui travaillent beaucoup avec les bébés, mais beaucoup d'anciens prématurés m'ont raconté, ou montré, fait comprendre, qu'ils faisaient des sorties de corps. Quand ils sont dans leur couveuse, ils font des sorties de corps et ils se regardent d'en haut. Et ça, c'est important à savoir parce qu'il faudrait pouvoir le repérer et les rassembler tout de suite. J'ai rencontré un homme de 40 ans qui n'était jamais rentré encore dans son corps. Et tout le travail a été de rentrer muscle par muscle. Alors, qu'est-ce que l'aptonomie ? Alors, Franz Wellman, son fondateur, l'a défini comme science de l'affectivité. Et l'œuvre de sa vie a été de comprendre que si on considère le psychisme humain dans son ensemble, on peut rassembler dans un tout cohérent tout ce qui a trait aux perceptions, sensations, émotions, sentiments, tous les affects. Et il les a réunis dans un ensemble qu'il a nommé l'affectif avec un grand A. Et l'œuvre de sa vie aura été de décrire le fonctionnement de l'affectif et comme ça de nous donner des clés essentielles sur le fonctionnement humain. Alors cet affectif, en fait, il est régi par les voies sous-corticales, c'est-à-dire toute la base du cerveau, le fameux système limbique qui a été évoqué ce matin, et il se traduit immédiatement dans toute la personne par des changements de tonus au niveau de chaque cellule. Quand dans chaque cellule musculaire qui entoure chaque mini vaisseau sanguin, eh bien tout le sentiment de soi change immédiatement. Donc l'affectif éveille les voies sous-corticales, enfin met en action les voies sous-corticales. Et il agit par des changements de tonus immédiats et partout, qui eux-mêmes entraînent des changements de sécrétion hormonale, des changements aussi de pensée. On ne pense pas pareil quand on est tout raide et tout coincé, ou qu'on a peur, ou quand on est là, qu'on est présent dans l'espace et qu'on est en sécurité intérieure, évidemment. Hein. Donc, connaître le fonctionnement de l'affectif et savoir travailler avec, ça permet une ouverture que jusqu'à présent on n'avait pas, parce que ça permet de ne plus séparer le corps de l'esprit. Quand on a compris le fonctionnement de l'affectif, on comprend que nous sommes tous des unités affectivo-somato-psychiques. Alors, ce qui se passe, c'est que l'affectif fait un tri permanent. Nous recevons en permanence des milliers de sensations internes, de perceptions externes, et si on ne les triait pas, on deviendrait fou. D'ailleurs, ça existe, ça. Donc, si on les laisse toutes monter à la conscience, on est débordé, comme certains bébés surstimulés qui ne peuvent plus fonctionner. Donc, l'affectif, en fonction de notre histoire, mais aussi celle de nos ancêtres, à travers tout ce qui se transmet dans la parole, entre les parents, les grands-parents, toute la famille, mais aussi à travers l'épigénétique, l'affectif va faire ce tri en fonction aussi du lieu où on a vécu. C'est-à-dire qu'un Un enfant qui aura été élevé dans la savane n'aura pas peur aux mêmes choses que celui qui aura été élevé sur la banquise, s'il en reste encore un petit peu. Nous sommes aussi façonnés par les lieux où nous vivons, par toute la culture dans laquelle nos parents vivent. Donc l'affectif opère ce tri permanent et il fait passer le sensoriel... Pardon, j'ai soif. Les perceptions qui ont passé le tri, le filtre affectif, qui ont pu monter au subconscient ou à la conscience, sont affectées d'un indice affectif, c'est-à-dire peur, pas peur, bon pour moi, mauvais pour moi, ça me plaît pas, etc. C'est-à-dire que ces perceptions deviennent sensuelles parce qu'elles sont chargées de sens. Et ce n'est pas du tout le graveleux du sensuel que nous appelons. Donc, l'affectif tri est, de ce fait, il est l'organisateur secret et du nouage incessant entre le corps et l'esprit. Ça n'arrête pas. Nous sommes ici tous, nous avons tous été très formatés à penser dans une pensée dualiste. Le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Et on essaye parfois de sortir un peu de là en passant par des pratiques exotiques, etc., que nous ne maîtrisons pas. Avec l'aptonomie, on peut le faire d'une façon très rationnelle, très occidentale et très simple. Et donc, prendre en considération le fait que rien de ce qui est pensé n'est pas éprouvé en même temps dans la chair, et que tout ce qui... et produit par la pensée, vient de ce que nous percevons et de ce que nous ressentons, c'est une véritable révolution. Ça change vraiment beaucoup de choses, et les gens ont du mal avec ça. Alors, souvent encore, les patients adultes me disent « Ah, alors ils me parlent de leur corps ». Alors, au bout d'un moment, je leur dis « Écoutez, la prochaine fois, venez sans votre corps, on y verra plus clair ». Et là, ils rigolent, parce qu'ils comprennent que c'est absurde. Nous sommes incarnés, et... dans la chair, je veux dire par là. C'est pour ça que nous ne parlons jamais du corps, mais toujours de la corporalité. Et jouer le jeu de la vie, c'est jouer à fond le jeu de cette incarnation et de tout ce qu'elle implique. C'est-à-dire être conscient de notre présence, toute présence et communication, disait Franz Wellman, et donc être conscient de ce qui émane de nous et de ce fait, de ce que nous suscitons chez l'autre. Dans le monde de la petite enfance, c'est très poignant parce que chez les humains, tout se fait dans la réciprocité. Si vous vous approchez en étant bien fermé, bien coincé partout, pas dans l'espace, l'autre a peur et il dysfonctionne. Et on dit, vous voyez, cet enfant est très anxieux. Et non, on passe notre temps à induire chez l'autre des comportements qu'après nous stigmatisons. Alors il y a plein de petits exercices pour ça. Si on a le temps, peut-être on en fera. De voir aussi comment les mots, les psychanalystes diraient les signifiants, s'inscrivent dans la chair. Et ça, c'est très important parce que c'est dès la vie prénatale. Juste un petit exemple. Dernièrement, moi, je suis très contre, en majorité, je ne suis jamais contre toujours, ni jamais toujours contre, mais d'une façon générale, je trouve très imprudent de révéler le sexe des bébés avant la naissance parce que ça leur fait porter beaucoup de choses. Et l'autre jour, on était dans un débat comme ça avec des parents. Je dis, bon, arrêtons, c'est pas intéressant. Simplement, on se met autour de l'enfant, comme on le fait en aptonomie, le père, la mère, ensemble, tous les trois. Et l'enfant tout de suite réagit. Je vais y revenir dans un instant. Et je dis maintenant aux deux parents, les deux parents souhaitaient terriblement avoir une fille. Ils avaient déjà un garçon, bon, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Et je leur dis, maintenant, tous les deux, pensez, c'est un garçon. Et immédiatement, tout s'est figé dans le giron de la mère. Le giron, ça va des épaules au bassin. C'est un tout. L'enfant est dans l'utérus, mais l'utérus est inséré dans toute une maison de muscles qui va bien au-delà de l'utérus. Immédiatement, tout s'est figé autour de l'enfant. Alors, vous voyez, ça... L'enfant le perçoit, l'enfant y réagit. C'est un élément de sa construction. Donc, l'autonomie, grâce à cette compréhension de l'affectif, permet de renouveler tous les métiers de soins et d'éducation. On garde le même métier, mais on le fait avec cette grille de lecture affective, parce qu'une fois qu'on a compris ça, évidemment, on a une autre vision du développement et de la psychopathologie, qui n'est pas forcément opposée à celle des autres, dont on a parlé aujourd'hui, mais qui apporte des complémentarités. Et on a surtout une autre vision de l'intelligence, hein, et de son développement. Une intelligence, pour nous, beaucoup plus sensorielle, sensuelle, et beaucoup plus dépendante de l'insécurité ou de la sécurité affective. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'une intelligence, ça s'éteint très facilement. Ça peut se rallumer, mais il ne faudrait pas que ça reste trop longtemps éteint pour ça. Donc, on peut renouveler tous les métiers d'éducation, d'enseignement, la puériculture, n'importe quel métier. Et effectivement, l'aptopsychothérapie, qui est, à ma connaissance, la seule thérapie qui permette de travailler au niveau du moi conscient d'une façon comme n'importe quel thérapeute, pas aussi profondément qu'une psychanalyse, mais si c'est nécessaire, et seulement si c'est nécessaire, on peut, avec le même outil, aller travailler dans des zones prélangagières très très archaïques, dans lesquelles on ne peut pas s'aventurer sans un contact, sans une proximité, sans une sécurité affective. Et c'est pour ça que ça apporte quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, dans cette vision de l'intelligence, on comprend qu'elle doit être tout le temps nourrie, et nourrie par l'affectif, par des représentations, par des éprouvés, par des ressentis. Et la façon dont tout ça va se passer, sécure ou insécure, eh bien, va dépendre de la façon dont l'intelligence va se structurer. Je suis obligée d'aller à grands traits un petit peu, hein, mais il y a d'autres endroits où vous pourrez en savoir plus. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que les traces mnésiques non conscientes, dont nous sommes pétris, et qui sont au travail en nous tout au long de notre vie, sont inscrites dans les tissus. Et en fait, c'est pour ceux qui connaissent l'embryologie, c'est dans l'endomésoblaste, mais on n'a pas vraiment le temps d'en parler aujourd'hui. Mais c'est là que sont inscrites les traces mnésiques non conscientes, ce qui n'est pas la même chose que l'inconscient. Hein. On donne en aptonomie pas la même place à l'inconscient psychanalytique au sens lieu de pulsion et de refoulement. On va donner beaucoup plus de place au non-conscient et au moi-conscient aussi, ou au préconscient. Alors, l'accompagnement pré- et post-natal, alors, c'était amusant de vous entendre parce que nous, on a de la chance, les pères, ils viennent directement. On n'a pas besoin d'aller les chercher, ils sont là. Par contre, parfois, on refuse d'accompagner les mères si les pères ne veulent pas. Donc ça, c'est très, très, très important. C'est un travail avec deux adultes. Alors, dans un monde dont nous venons très simplement, où il y avait, comme disait ce matin Boris, le père, la mère, etc., c'est eux. Maintenant, quelquefois, l'autre de la mère peut être une femme. Je ne parle pas des GPA, parce que ça, pour moi, c'est une limite infranchissable. Toutes les configurations sont là. Mais quand une femme nous demande un accompagnement et que le père ne veut pas, notre travail, c'est de l'aider, d'aider ce couple à ce que ce ne soit pas mauvais pour eux qu'il ait refusé l'aptonomie. On va au contraire le soutenir et lui dire, c'est vrai, il a toujours des bonnes raisons. Hein, il ne les connaît pas forcément, on ne les connaîtra peut-être jamais, mais elles sont très profondes. Ne pas vouloir s'aventurer dans la rencontre avec la vie fœtale, ce n'est pas pour rien. Hein. Je me souviens d'un père qui, au bout de quelques séances, est parti, c'était un enfant qui était né sous X, et il m'a demandé cette chose qu'on ne fait jamais, il m'a dit « je vous demande de continuer, je ne peux pas venir, mais ma femme me racontera tout ». Et j'ai accepté, et il est revenu quand l'enfant marchait, en m'apportant un magnifique tableau de l'arbre de vie, et en me disant « c'était trop difficile pour moi, étant donné ce que j'ai vécu ». Donc voilà, on fait toujours des exceptions. Mais sinon, finalement, on s'aperçoit que quand une femme dit, ben voilà, l'aptothérapeute m'a dit que quand tu n'aurais pas décidé, les hommes qui disent, je ne sais pas si je veux de cet enfant, dit, ben tant que tu n'auras pas décidé, on ne fera rien. Alors ça les aide à se périser quand même, parce que ça leur donne une place. Hein. Alors quelquefois, ben, ils se décident, mais c'est trop tard, parce que l'accompagnement aptonomique ne peut pas commencer au-delà de 28 semaines de vie prénatale. on peut toujours, en urgence, faire un travail haptonomique, même en salle de naissance, avec des gens qui ne connaissent pas. Mais l'accompagnement et son déroulé demandent une maturation du père, de la mère, de l'enfant, d'autant plus que dans cet accompagnement, il y a une préparation à l'accouchement. Donc ça demande du temps pour que tout prenne place dans chacun et que ça puisse vraiment être mis en acte, sinon c'est de l'imposture. Donc, parfois, les pères se décident trop tard, mais du coup, ils deviennent vraiment pères. Et si le père est définitivement parti, ou parfois mort en début de grossesse, on demande à la mère de choisir un tiers, c'est-à-dire une personne qui va venir aux séances, qui la rencontrera en dehors des séances, puisque ce qui se passe entre les séances est très important, et qui sera là le jour de la naissance. Le choix du tiers n'est pas facile. Ça peut parfois être une grand-mère, ça peut être une amie, ça peut être un ami. C'est toujours très très important à choisir. Et il ne faut pas oublier qu'il est en position carte, parce que le père, il est dans l'enfant. 50% des gènes de l'enfant et des cellules de l'enfant viennent du père. Donc, par exemple, quand il s'agit de couples homosexuels, mon contrat moral, c'est dire « je vous accompagne à condition que vous acceptiez que je parle du géniteur et qu'il ne soit pas exclu. Il sera là, on l'évoquera. » Donc, une fois que ça est posé, on part pour 8 séances, 8 ou 9 séances, et avant la naissance, et au moins 4 séances postnatales. Alors je détaille un peu ça. Idéalement, on devrait voir les femmes presque avant la conception, ou en tout cas le plus tôt possible pendant la grossesse. C'est poignant pour nous de voir arriver des femmes au 4e, 5e mois, et elles nous disent on nous a dit qu'il fallait attendre qu'on sente l'enfant bouger. C'est absurde, c'est complètement absurde. Et on aide aussi des femmes qui sont dans des processus de PMA. Dans cette séance de découverte, on fait tout simplement découvrir à la femme qu'il y a des phénomènes qui font qu'elle peut être totalement détendue face à quelque chose que 3 minutes avant elle aurait vécu comme très agressant, un pincement, etc., et qu'elle peut être autour de l'enfant, même si elle ne le sent pas bouger. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe très souvent? Elles le sentent. Parce que ce n'est pas les enfants qui bougent plus ou moins tard. Les enfants, ils bougent tous à peu près au même moment. C'est les femmes qui ne sentent pas, parce qu'elles mettent des curseurs très larges, elles attendent des coups. Mais ce n'est pas du tout des coups qu'on sent. Quand un enfant de 7, 8 semaines, parfois plus tôt, sent que sa mère est avec lui, il y a un changement pour lui dans toute sa maison de muscles, dans le goût de son liquide amniotique, parce que les hormones ont un goût. Donc tout son univers change, et la réponse de l'enfant, je vais vous la faire, vous allez voir, à mon âge ça fait bizarre, il fait ça. C'est-à-dire qu'il ondule sa colonne vertébrale. Et tant que je n'ai pas senti ça sous mes mains, je sais que la séance n'est pas commencée. C'est la mère qui ouvre le bal en allant à la rencontre de l'enfant. Et c'est pour ça que mettre les mains sans demander, c'est totalement absurde. Et elle n'a pas besoin de ses mains pour faire ça. C'est vraiment de l'intérieur qu'elle le fait. Et on s'aperçoit, quelquefois, on voit les gens en urgence. On les voit tardivement dans des situations dramatiques, mort d'un jumeau, etc. On s'aperçoit que quand ça a été vécu par l'enfant, c'est-à-dire... ma mère vient vers moi, mon père est autour, il est institué comme sujet, c'est-à-dire qu'on lui prête une place de désirant. J'ai envie de vous rencontrer. Je suis quelqu'un qui désire être confirmé affectivement. Eh bien, quand un enfant a vécu ça, il y a un avant et un après. Il y a, évidemment, quand on a fait tout un tas de séances, on voit des choses différentes, mais là, il y a cet effet de qualité de la présence changer, ils sont différents, ils ont un regard qui est tout à fait présent, beaucoup plus présent. Je suis venue exprès en photo, mais c'est comme ça. Donc, ce fait d'être investi comme sujet par les parents, dans la réalité charnelle, c'est un moment décisif pour l'humanisation de l'enfant. C'est-à-dire qu'il sort de son statut de spécimen de l'espèce pour être l'enfant de un tel et un tel. Et on lui donne le droit d'avoir le désir d'être aimé. Ça, c'est... On lui reconnaît ce désir comme étant bon pour lui. Alors, dans cette première séance, elle est très, très importante, parce que si on peut faire ça tôt, tout ce début de grossesse est modifié. Comme vous le savez, de nos jours, à cause de la peur de la découverte d'une malformation l'échographie, la plupart des enfants commencent leur vie sur un siège éjectable. On n'en parle à personne, parce que si jamais il fallait faire une interruption médicale, alors, il n'existe pas. La mère est là, elle ne sait pas si elle doit s'y attacher, surtout s'il y a un passé difficile. Le père n'ose pas toucher. Alors que dans cette période, il se passe à chaque seconde un événement fondateur pour tout l'avenir de l'enfant. Et ce moment très, très, très important, on le laisse tout seul. Parce que des fois, il ne faudrait pas que tu restes, il ne faudrait pas qu'on t'aime trop. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'on fait vivre aux enfants au nom des découvertes scientifiques. Et en plus, c'est un calcul tout à fait faux. Parce que, et c'est la même chose quand on accompagne des gens qui sont dans un processus de PMA, même si l'enfant ne vit pas, les parents et la mère, par exemple, souvent il y a des femmes qui ont de nombreux échecs de PMA. Quelquefois, il n'y a aucun enfant au bout d'un long processus. Eh bien, si elles ont fait ça, à chaque grossesse, elles ont vécu quelque chose du maternel et du maternant. Et ça, pour leur développement, pour l'avenir de leur vie de femme, peut-être de mère si elles ont d'autres enfants, c'est extrêmement important. Parce qu'elles ne se vivent pas comme des porteuses de mort. Il y a eu du maternel vivant, de l'échange, etc., avec leurs compagnons. Et si on a fait cette séance qui fait que tout le tonus se modifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout devient souple. Les trompes, les minuscules petites trompes de Fallope où il se passe tellement de choses, elles deviennent toutes souples. Tout est dilaté, tout est moelleux. Quand l'enfant vient s'implanter, toute la muqueuse est prête. Il y a une disponibilité. Parce que l'utérus, il est mamaïsé, on pourrait dire. Donc ça, ce sont des processus très importants à connaître. Donc souvent, malheureusement, on les rencontre au début du quatrième mois. Et là, on va peu à peu construire une relation père-mère-enfant, mais qui commence toujours chaque séance. Bien sûr, installer la mère, demander à la mère et au père comment ils vont, et tout ça, tout ça. Et une fois qu'ils sont bien installés, on va recueillir ce moment précieux où la mère se sent entière, complète, en confort, et elle va chez l'enfant, le père et la mère vont l'un chez l'autre, et l'accompagnant va chez les deux, et tous ensemble, chacun de notre place, chaque place est différente, on va chez l'enfant. Et là, l'enfant nous dit « Ah, vous êtes là, alors moi aussi », et il se profile. Il se profile par cette ondulation, et ensuite, tout de suite, par un balancement spontané. Dès qu'une mère est en sécurité et qu'elle est avec l'enfant, il y a un balancement droite-gauche spontané qui vient sans doute du fait que le périoste, la petite membrane qui entoure le sacrum, se met en mouvement et que l'enfant utilise cette dynamique pour se balancer. Ça, c'est un balancement spontané. Ensuite, on peut apprendre à un enfant tout petit qu'il peut aussi se balancer autrement. Il peut se balancer de haut en bas. Il peut se rouler sur son axe. Imaginez comme ça les mains de trois bons géants qui vous entourent le dos et qui vous disent « Est-ce que tu as envie de tourner sur toi-même ?» Et il y a un déclic qu'on guette dans les yeux de la mère, parce que c'est dans les yeux de la mère qu'on le voit. Nous, on le sent sous nos mains aussi. L'enfant prend le mouvement en charge. Et c'est lui qui nous berce. Ça, vous imaginez ce que ça peut faire dans un cerveau en construction, dans une vie affective en quête de sens, en quête de confirmation affective. Alors, il y a ce qui vient de l'enfant, ce sont ses balancements, il y a ce qui vient de la mère, aller à la rencontre, il y a ce qui vient du père, qui est celui qui est garant du lien mère-enfant, qui est aussi celui qui donne le confort à la mère. Tout au long, on va lui apprendre des gestes en fonction des modifications de la silhouette pour donner du confort à la mère. Et quand tout ça aura bien été mûri, eh bien, ça va se mettre en place comme un puzzle pour le moment de l'accouchement. Il y a quelqu'un qui accouche, il y a quelqu'un qui naît. Ils font ça au même moment, mais c'est deux actes très différents. Et c'est le père qui aide chacun dans son acte. Alors, comme il ne me reste plus que 5 minutes et que ce n'est pas beaucoup, je vais parler quand même un peu du postnatal. Alors, ça modifie les conditions de l'accouchement, bien sûr, ça ne fait pas de miracle. Il y a quand même des césariennes, mais il y en a moins. Et il y a aussi que quand l'accouchement est difficile et mal vécu, il ne laisse pas du tout les mêmes traces parce que la mère a eu le sentiment que tout au long, elle ne lâchait pas l'enfant. Elle était avec l'enfant dans ce processus où elle l'accompagne, elle le soutient. Et ça, pour les suites de couches et pour la relation mère-enfant, c'est une différence absolument énorme. Alors, je n'ai pas le temps de parler de l'obstétrique, mais ce sera pour une autre fois peut-être. Pourquoi le postnatal ? Bah, ça a été très bien dit ce matin, la chute hormonale, tout ça. Cette espèce de cataclysme, ça veut dire remaniement de la planète, un cataclysme de la mère, du père, du couple et pour l'enfant aussi. Pour l'enfant, ça a été évoqué juste avant cette énorme révolution qu'est la sortie du giron pour arriver dans le monde aérien où on n'a plus de parois pour jouer, il n'y a plus d'eau, on ne peut plus tripoter son cordon, sucer son pouce, s'amuser, tout ce qu'on faisait pour se réassurer. Et il y a ce moment très très important, cette question sur l'identité. C'est-à-dire que dans cette vie prénatale sensuelle, l'enfant construit une proto-identité qui est faite de tout ce qu'il reçoit de ses parents, affectivement. Et quand il naît, la grande question, c'est de lui permettre de s'assurer qu'il est bien toujours lui, celui qui était là avant. Et qui sont les garants de ça ? C'est les parents. Il y a plus. Alors, il faut qu'il fasse dans la sérénité l'inventaire. Il n'y a plus les parois, il n'y a plus le cordon, mais il y a toujours eux. Et si eux sont toujours là, alors moi, je suis toujours bien moi. Et c'est comme ça qu'un jour, il pourra dire « je ». Alors après, il y a cette séance de suite de couches qui est très très importante, où il faut restaurer beaucoup de choses chez la mère, écouter beaucoup et reposer l'enfant sur le giron. Et là, ce qu'il va faire a valeur de récit. Et ça, c'est absolument passionnant. Bon. Ensuite, on les revoit entre 3 mois et demi et 4 mois. On leur apprend une façon de porter les enfants. Alors, il y a un peu les gestes qui ont été vus là, qui sont des gestes avec des enfants endormis, passifs. Et puis, il y a tous les gestes. Comment on montre à un enfant tout petit, même en réa néonat, je l'ai fait, qu'il peut trouver sa verticalité. Et trouver sa verticalité, ça a à voir avec l'humanité. Parce que dans la verticalité, le cerveau ne travaille pas de la même façon. Les yeux sont en face des trous. Et la première verticalité est une émotion esthétique structurante. Et on la fait vivre très très tôt. Entre 3 mois et demi et 4 mois, je vais me brouiller. Entre 3 mois et demi et 4 mois, le cerveau change énormément. L'enfant voit plus loin. Et si tout va bien, la mère et l'enfant sortent de cette espèce de quatrième trimestre et ils ont envie un peu chacun de prendre un peu l'air. Et si on ne change pas le portage, l'enfant va s'ennuyer. Il y a beaucoup de choses à changer parce que les enfants, ça dépend beaucoup de leur typologie, mais là, ils ont une période très douloureuse, surtout pour certains. Les enfants, quand ils voient quelque chose, ils ont envie d'y aller. Et là, s'il n'y a pas d'autobus grande personne, ils ne peuvent pas. Donc, il faut leur donner tous les moyens de pouvoir trouver le peu d'autonomie dont ils peuvent disposer. Dans le fond, ce que nous disons dans cet accompagnement postnatal à l'enfant, c'est toi qui te lèves, c'est toi qui te tournes, c'est toi, avec mon aide, mais c'est ton acte. Et le fait qu'il se sente dans un acte, évidemment, c'est une autre structuration pour sa personne et pour son intelligence. Ensuite, on les voit pour une séance que j'ai baptisée l'arriversaire, c'est-à-dire 9 mois s'ils sont nés à terme, 8 mois ou 7 mois, ça dépend, parce que c'est un moment très très important. C'est aussi un moment où il faut revoir les femmes qui ont fait des fausses couches ou des IMG, évidemment, pour les aider, parce que c'est un moment important. Et là, si l'accouchement ou la naissance ont été difficiles, ou l'un des deux, ou les deux, on va remettre l'enfant sur le giron. Et là aussi, il y a un nouveau récit. Les parents ne disent pas la même chose, parce que l'amnésie du post-accouchement a disparu. Et souvent, les enfants, on peut comprendre... Vous savez que ça, c'est Françoise Otto qui nous l'a appris, des 9 mois post-natal, l'enfant fait des syndromes d'anniversaire des 9 mois pré-natal. Donc l'angoisse du 8e, 9e mois peut être comprise comme le réveil des angoisses autour de la naissance. Donc souvent, ils ont des dysfonctionnements autour de cet anniversaire. Et ça arrive que cette séance soit très pénible parce que l'enfant pleure beaucoup. Mais 8 jours après, les parents appellent en disant « tout va bien ». C'est comme si on avait évacué des traces de souvenirs très difficiles. La dernière séance, celle que j'ai appelée la révolution bipédique, eh bien, c'est parce que ces enfants ont un développement, ils sont différents, ils sont confiants, confiants en eux, confiants dans l'autre. Ils ont une immense sécurité affective. Ils sont en général beaucoup plus en sécurité que leurs parents, qui en plus ont toute une problématique de l'époque, qui veulent être aimés. Bon, c'est très compliqué pour cadrer un enfant. Donc, cette séance, elle est destinée à montrer aux parents comment, dans les 3-4 années qui viennent, contenir, vous voyez, vous entendez, contenir, c'est pas cadrer. Cadrer, on se fait mal dans les coins. Contenir, on peut jouer. Contenir un enfant en n'atteignant pas la sécurité affective. Et c'est une séance aussi où on regarde comment les parents qui ont vécu avec ces bébés idylliques, parce que les bébés bien accompagnés sont très faciles à vivre, ils rigolent, ils sont simples. Mais quand ils se mettent debout, qu'ils marchent et qu'ils disent non, ils sont puissants. Et on voit des gens qui se déballonnent devant, ils ont perdu leur idylle. Donc c'est pour ça que cette séance est très, très, très importante. Alors, les enfants qui naissent en étant accompagnés, l'impression qu'on a quand on voit leur développement, et les pédiatres qui savent voir, disent « tiens, celui-là, il a fait de l'apto », c'est qu'ils ont un cerveau qui a été jardiné par rapport à un cerveau qui serait resté en friche. C'est ça la métaphore qui me vient le plus. Et de ce nuage intense qui s'est fait là-haut, mélangé avec la sécurité affective, eh bien, ça donne une souplesse pour faire face aux événements de la vie. Mon titre, c'était le terreau. Vous savez que le début d'une trajectoire, quelle qu'elle soit, est très, très important. Le moment où elle commence va infléchir tout le développement de la courbe. Et la vie humaine, c'est une ligne qui est comme une spirale. Et à chaque fois qu'on arrive à l'amont d'un événement difficile, toute la spirale va se mettre en mouvement. C'est extrêmement important de lire les récits de naissance et d'accouchement avec ça, parce que chaque fois que l'enfant va affronter un changement radical en lui ou autour de lui, il va réactiver les processus de protection et de défense qu'il avait mis en marche au moment de sa naissance. Et alors, il y en a plein, il y a le sevrage, la mise en crèche, etc. Mais il y a l'adolescence, où il y a vraiment une redistribution des cartes de la naissance. Et là, le travail qu'on a fait prénatalement porte toute sa richesse pour assister, pour aider l'adolescent à traverser cette période difficile. Voilà. Je crois qu'il faut que je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention.
Hein ? Alors, par rapport... Je vais poser la question.
Oui. Ben, donc, cette dame, depuis ce matin, pose des questions remarquables. Alors, je vais la laisser poser.
Oui. Quel est le lien entre l'aptonomie et le centre parental ?
Mais c'est au centre de parental de choisir s'il veut avoir un lien. Mm-hmm. Il pourrait y en avoir un formidable dans l'accompagnement. Alors, d'abord, il y aurait un travail de suite de couches. C'est vraiment très, très important, les suites de couches. Et pas seulement dans ce qui se dit, mais dans ce qui se vit, de restaurer la femme dans sa base, dans sa complétude, ça change tout. Et de remettre en mouvement le dialogue mère-enfant dans ces conditions-là, ce serait très important. Bon. Et puis, ce travail aussi avec le père. Donc, bien sûr que si les centres parentaux veulent s'approprier cet outil formidable, il ne tient qu'à eux.
Et je crois que c'est le cas, non, Frédéric ? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Tiens, parle.
Oui, en tout cas, dans l'approche d'aire de famille, c'est l'expérience qu'on a vécue, et c'est l'expérience qu'on a vécue pendant près d'une dizaine d'années. Brigitte avait été imprégnée de sa formation en autonomie. Moi, après coup, j'ai eu la chance de faire une formation en aptopsychothérapie, on en dira un petit mot, hein, qu'est-ce que je... Oui. Et donc, c'est vrai que ça enrichit beaucoup, beaucoup le travail d'accompagnement et de soutien de l'écosystème de la triade père, mère, bébé. Oui. Ça donne surtout aux professionnels un discernement de ce qui convient à de la, pas de la posture, mais de la manière d'interagir avec tel bébé, avec tel père, avec telle mère, au-delà de ce qui peut avoir été parfois été formaté par nos formations, où on nous dit il faut faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Hein. C'est-à-dire on est vraiment, ça aide à entrer dans la relation et d'aller appeler la partie saine de la personne. Hein. Je pense qu'une des caractéristiques de l'autonomie, c'est vraiment de s'appuyer sur la partie saine de la personne. Et on ne dit pas du tout les carences ni les difficultés, hein, mais on va mieux les voir si on est capable de s'appuyer sur l'intentionnalité vitale, hein, pour reprendre
oui,
un thème
ça,
un peu jargonnant.
C'est un peu technique pour tout
voilà,
le monde.
C'est un peu jargonnant.
Mais on pourrait dire qu'il y a un endroit où le moteur du goût de vivre trouve sa force. C'est ça, l'intentionnalité vitale. Et très souvent, elle est éteinte. Et il y a une manière autonomique d'aller réveiller ça. Dans le fond, l'autonomie, ça réveille ou ça initie le désir de vivre, mais aussi le courage de vivre. Parce qu'on l'a entendu ce matin, c'est difficile de vivre. Hein. Et c'est très important de soutenir le courage de vivre.
Je crois que ça confirme aussi ce que les psychologues du développement ont découvert en termes d'agentivité du bébé, c'est-à-dire le fait que le bébé... avant la naissance, dès la naissance, est déjà un acteur de la relation.
Mais avant !
Voilà, j'ai dit avant.
Avant, hein, parce que par exemple, juste d'un petit exemple, si une mère arrive, qu'on l'installe, et qu'elle tient des propos de déréliction sur elle-même, elle n'est pas bien, etc., mais comme on l'a bien installée, qu'on est autour, l'enfant le sent, il s'appuie sur nous, et il se met à se balancer. À ce moment-là, on peut dire, vous voyez, quand même, bien, malgré tout ce que vous dites, et qu'on entend, lui, la bonne mère qui est en vous, il l'aperçoit, puisqu'il se balance. Donc l'enfant confirme sa mère. C'est extraordinaire de voir comment, à tout âge, les enfants essayent de réparer leurs parents. Je pense que c'est plus confortable d'avoir des parents qui vont bien, mais c'est extraordinaire. On les connaît, les pulsions thérapeutiques du bébé. Mais in utero, c'est extraordinaire, des enfants qui ne bougent pas, tant que la mère a dit, mais finalement, je ne sais pas si j'en veux, etc., il ne bouge plus. Jusqu'au moment où elle dit, ah, il est mort. Et là, il bouge. Parce que...
c'est très important ce que tu dis, Katouche, parce que je dis toujours, le bébé, il est le premier thérapeute du couple.
Alors, j'aime pas avec trop la dire ça, parce que ce n'est pas terminé, son boulot.
Je n'ai pas tout à fait terminé. C'est justement là que le professionnel peut intervenir et le soulager.
Hein, je peux l'entendre si tu l'entends comme les Wolofs.
Oui,
l'homme est le remède de l'homme, tout homme est le gardien de son frère.
Oui, oui,
mais
sûr.
Le bébé n'est pas thérapeute, mais il fait du bien.
Non. C'est-à-dire que justement, le bébé va sentir. Le bébé va sentir si le professionnel se préoccupe du couple de ses parents. Et s'il voit que le professionnel est bienveillant vis-à-vis du couple de ses parents, même s'il y a plein de dysfonctionnements, il se dit ah, ça y est, je suis tranquille, j'ai plus besoin de. Et il s'apaise et il dit ça y est, il y a un professionnel qui s'occupe de mes parents. Voilà, et du couple.
Quelqu'un veut te prendre.
Dominique Descamps, je suis aptopsychothérapeute et pédopsychiatre et psychanalyste de formation jadis. Et donc, je voudrais dire quelque chose par rapport à une des formations dont tu n'as pas, que tu as évoquée très vite, mais qui est la formation d'aptocinésie. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup occupé de ce que ça a apporté au bébé, mais il me semble que dans ce qu'a montré très bien le film Marie-Rose Toubin, c'est-à-dire les moments où les soignants se trouvent en difficulté. Et je trouve que ce qui est très important, c'est qu'on mesure que dans les formations d'aptonomie, il y a celle qu'on appelle l'aptocinésie, qui s'adresse bien sûr aux infirmières, aux gens qui s'occupent des gens alités, malades, etc. Mais on peut y aller aussi en tant qu'éducateur, en tant que sage-femme. Et on apprend une chose fondamentale, c'est-à-dire, et qui manque, je trouve, dans bien des dont les dysfonctionnements sont la preuve, c'est-à-dire que des soignants en sécurité profonde ne sont jamais démunis, même si techniquement ils sont en panne, ils ne savent pas, mais ils sont à ce moment-là humainement tellement présents, tellement en sécurité, qu'ils trouvent. Ils trouvent comment humainement faire face à l'autre. Et je voudrais juste raconter une anecdote racontée par une infirmière. Moi, j'avais eu la maman en post-natal, et c'est une femme de Guinée-Bissau, complètement isolée, son mari restait là-bas, elle a accouché de deux jumeaux, et l'un des deux, un fibre moteur cérébral, dès l'année, c'était visible, etc. Et donc, quand elle vient me voir, elle était dans un état de dépression profonde. elle me dit, Madame, et ça rejoint ce que disait Didier Houzel ce matin, Madame, dans mon pays, au moment où on accouche, toutes les femmes s'occupent. Moi, j'aurais rien eu à faire, juste m'occuper de mes bébés. On aurait fait le ménage, on aurait fait à manger, tout ça. Et elle me dit, vous savez, ce qui m'a fait beaucoup de bien, ben, c'est une infirmière qui est venue et qui m'a dit, venez. Et elle a vu l'état de cette femme. Et elle l'a emmenée et elle l'a baignée. Elle lui a donné un bain. Et dans ce bain, cette femme m'a dit, c'est formidable le sens de ce geste. Dans son sens de femme, s'occupant d'une femme, avec le savoir des femmes traversant son être, elle lui a donné un bain, ce qui la remettait, vous voyez, toutes les poupées russes, qui l'a remise dans un état de disponibilité à nouveau à l'enfant qui allait bien, l'autre étant hospitalisé et en difficulté. Je voulais dire ça parce qu'il y va de pouvoir communiquer cette sécurité et de pouvoir traverser les discords éventuels en étant, en conservant la relation, que ce soit avec les patients ou que ce soit entre professionnels. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter.
Oui, je reviens, j'ai oublié, j'ai dit que je parlerais de la voix. Il faut quand même que j'en dise un mot. L'enfant n'entend pas dans les deux premiers trimestres de la grossesse, mais il perçoit les sons par des vibrations sur toute sa peau. Ça veut dire que tous les enfants que nous accueillons qui sont des sourds innés, ils ont entendu corporellement sur la peau la voix de leurs parents. Ça, c'est important de toujours s'en souvenir. Et effectivement, quand je reçois des gens pour la première fois au quatrième, cinquième mois, même si l'enfant, si le père ne s'est jamais directement adressé à l'enfant, quand lui parle, s'adresse à l'enfant, immédiatement, à la milliseconde, il va vers la voix du père. Et quand c'est la mienne, il met 2 ou 3 secondes à se décider. Et quand les parents restent longtemps assis côte à côte, etc., l'enfant va toujours du côté de la voix où son père parle, mais ils ne savent pas, les hommes, si les mères ne les disent pas. Or, c'est très confirmant pour eux de savoir que l'enfant s'approche de leur voix.
Oui.
Voilà.
Alors, merci beaucoup. Par rapport à l'autonomie, c'est d'où l'intérêt dans la pratique d'aire de famille, c'est accueillir le couple avant la naissance. C'est pas toujours possible, mais c'est bien dans son projet d'établissement de le communiquer à l'environnement, de le travailler avec le département et dire c'est vraiment intéressant d'accueillir le couple avant même la naissance de l'enfant. Voilà, et pas attendre que les choses soient devenues catastrophiques.
Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, j'invite Anne de Vresse et les deux organisateurs du colloque, Sylvie Chemin et Frédéric van der Broek, à nous rejoindre.
Oui, Sylviane Champineau, juste rapidement quand même.
Parle dedans.
Je voudrais souligner quand même un mot, entre autres, hein. L'affectif est l'organisateur secret du nouage incessant entre corps et esprit. Et ça n'est pas réservé à la grossesse, à la naissance, au postpartum. Mais c'est vraiment le trou dans la raquette des représentations que nous avons aujourd'hui de l'enfant. Et le prototype de ça, c'est qu'on a d'un côté les porteurs d'étendards des neurosciences qui nous corporéisent tout, au sens où ils nous neurologisent tout, avec des enfants qui sont finalement des corps porteurs d'un cerveau, quoi, hein, des porte-cerveaux. Et puis après, on enferme un peu les psys dans le fait qu'ils psychologisent tout, etc. Et j'ai juste envie d'inviter, j'ai un peu évoqué ce matin, à ne pas perdre de vue ça, parce que c'est l'axe de tout ce que nous entreprenons les uns les autres, qui est différent. Si on veut être dans l'humanisant, on ne peut lâcher ni l'un ni l'autre. Voilà. Merci, Catherine.
Merci. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez la maison de l'autonomie ou CIRDH et vous tomberez sur notre site qui est plein d'informations.